Salut et bienvenue dans cet épisode spécial Web Today numéro 2. J'ai eu la chance de participer à cet événement et je vais vous faire profiter de deux formats courts pour vous plonger dans les coulisses de cette édition. Un premier a déjà été publié, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille. On aborde des sujets autour du no-code, de l'IA et du product management. Pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, je me représente. Je m'appelle Guillaume Comagnac, je suis associé du studio Tracteur. Et ce que l'on fait dans la vie, c'est qu'on accompagne des startups tech qui se situent entre le démarrage et la série A, de la vision produit jusqu'au lancement, en passant par le développement. Et si je vous parle de Tracteur, c'est parce que le projet Open Startup, il n'existerait pas sans Tracteur, donc les événements ainsi que ce podcast. Parce que, en effet, Open Startup, c'est d'abord des événements de portes ouvertes, des lieux d'innovation d'une ville. On prépare actuellement une quatrième édition à Bordeaux et une deuxième à Nantes. Allez suivre ça sur openstartup.fr. Et sinon, bah, vous le voyez, hein, il y a plus d'une quarantaine d'épisodes déjà disponibles avec des fondatrices ou fondateurs de startup ou des acteurs de l'écosystème qui nous partagent leurs aventures, les succès, les galères et qui transmettent beaucoup de conseils. Dans ce nouvel épisode spécial Web Today, je vous amène à nouveau en format micro-trottoir pour 4 interviews. Et cette fois-ci, les sujets seront les suivants. Le futur du travail, d'abord, la semaine de 4 jours. Un mot sur la décroissance. Ensuite, un témoignage sur l'égalité femmes-hommes. Et enfin, un échange avec l'organisateur en chef, Adrien Pogetti, directeur de la cantine, sur cette édition du Web Today. Bonne écoute!
Salut, je suis Flavie Prévost, je suis podcasteuse avec le podcast Le Board, le podcast des solopreneurs. Je suis nantaise depuis assez récemment, depuis il y a 2 ans, et j'ai découvert le Web Today en tant que spectatrice. Et cette année, j'étais speaker au Web Today pour présenter nos travaux d'exploration du futur du travail avec mon collectif Fleet, le collectif des freelances du Web 3. Et notre conférence, c'était « Travailler en 2033 ».
Cool, merci. Justement, travailler en 2033, vous avez vous fait un travail de veille sur des grandes tendances. Moi, j'ai noté un truc que vous avez mis dans votre intro qui est assez impactant en tout cas, c'est que aujourd'hui, 24% des gens estiment que le travail est important dans leur vie. VS 60% dans les années 90, je crois. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Bah forcément, on a tous constaté, en tant que collaborateur et talent, on a tous eu une crise de sens pendant le Covid et tout. C'est pas pour rien que l'essor du freelancing, l'essor du podcasting, l'essor des side business en tout genre. Donc voilà. Et en tant que manager, dirigeant, entrepreneur, ça se voit aussi gros comme une maison. C'est plus difficile de comprendre les motivations des nouvelles générations, d'attirer la Gen Z et tout ça. Et on doit se réinventer dans notre façon de manager. Et je pense que c'est important de se dire qu'en fait, c'est pour tout le monde pareil, cette histoire du travail moins important qu'avant, y compris les managers. Et donc, faut trouver aussi des façons de travailler de façon plus fun, plus agile, un peu plus réenchantée. Et nous, on trouve que voilà, dans ce futur du travail, il y a des façons chouettes de remettre du fun dans ce travail et de remettre les gens au travail, mais positivement pour ce qu'on aime dans le travail, c'est-à-dire la capacité à réaliser des projets qu'on aime, avec des gens qu'on adore, faire société. Et on voit bien au Web Today, c'est 3 jours de travail, mais de méga fun aussi. Moi, je bosse à fond, j'interview des gens, on boit des bières, on rigole, on est sur la terrasse, on a des conférences. Pour moi, c'est ça la définition du travail aussi.
Totalement partagé. Il y a un truc qui, entre guillemets, définit le travail, en tout cas dans notre société française, c'est le contrat. Est-ce que on va voir apparaître la fin du contrat de travail dans les années à venir?
Alors, certains le prédisent. Aux États-Unis, il y a déjà 39% de freelance, enfin de la workforce qui est freelance, potentiellement d'ici 10-15 ans, 50%. Moi, ce que je vois déjà aujourd'hui, sans parler de la fin du CDI, c'est qu'il y a des CDI qui font aussi du freelance à côté. Il y a des freelances qui sont aussi entrepreneurs. Moi, je suis solopreneur parce que j'ai plusieurs business. Je suis aussi membre d'un collectif. Je fais aussi du bénévolat. En fait, il y a plein de façons de travailler. Moi, je serais pour le polytravail. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'opposer les contrats, on pourrait les combiner. Et je sais qu'il y a des choses qui se font comme par exemple être en CDI à temps partiel dans 2 employeurs par exemple. Donc moi je pense qu'il faudrait ouvrir le débat et arrêter de penser que un bon talent c'est un talent possédé en CDI ad vitam aeternam. C'est même pas dans l'intérêt de l'entreprise, je vais te dire, parce que les métiers ils changent tellement. Qu'est-ce que tu vas faire de moi dans 10 ans dans ta boîte? Il vaut mieux qu'on soit tous comme ça, un peu plus flex dans nos façons de travailler.
Ouais, avec ce que tu abordes là, il y a le sujet que vous avez nommé d'hybridation des équipes.
si on a un manager ou un start-upper en démarrage qui nous écoute, quelle petite clé tu pourrais donner pour faire en tout cas une équipe hybride? Des fois t'as pas le choix parce que t'es contraint par soit du budget, soit du temps, etc. Mais comment tu fais pour créer une sorte d'équipe hybride qui vit bien? Est-ce que t'as des inputs là à nous partager?
Alors, bon, il y a plusieurs degrés d'hybridation, il y en a pour tous les goûts, hein. Je veux pas trop vous brusquer. Si vous avez jamais bossé avec un freelance, déjà, faut peut-être commencer par bosser avec un freelance une fois. Après, déjà, idée reçue, les freelances, c'est pas un talent jetable. Moi, je bosse avec des gens depuis super longtemps en freelance. Et c'est pas mes employés. J'aime cette liberté, mais en même temps, on a beaucoup de fidélité réciproque et c'est presque comme des collaborateurs. Moi, j'aime aussi leur niveau de séniorité, c'est-à-dire leur capacité à dire, attends, mais là, c'est n'importe quoi, on peut pas faire ça, tu vas droit dans le mur. Moi, mes anciens collaborateurs, ils osaient pas trop me dire ça non plus, même s'ils me le disaient poliment, tu vois. On aime ça chez le freelance. Et après, on peut avoir une équipe composée des deux. Je pense que c'est bien. Des employés et des freelances, parce que si t'as tout en freelance, t'as peut-être peur qu'ils te quittent pour d'autres missions et tout. Et enfin, si vous êtes vraiment wild, on peut même aller jusqu'au travail à la tâche. Nous, c'est un truc qu'on fait chez Fleet, et ça, c'est complètement fou. En fait, on n'a même pas besoin d'une personne, des fois. On peut juste poster des tâches à faire, par exemple, écrire un livre blanc ou créer ma stratégie de content sur TikTok, je sais pas quoi. Et là, des gens qui ont les qualités, parce qu'ils ont des NFT qui certifient leurs compétences, vont venir récupérer la tâche, la faire. Une fois que c'est fait, ils vont être payés à la tâche. C'est la gig economy, mais version col blanc. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Grâce à ça, vous pouvez toucher des talents rares qui n'ont pas envie de bosser trop longtemps sur votre mission parce qu'ils ont d'autres trucs à côté, leurs projets à eux, machin. Et ça, c'est un truc qu'on explore avec Fleet. Venez nous voir, on vous racontera. C'est un peu fou, mais franchement, ça pourrait marcher. Et on se dit que peut-être dans 10 ans, notamment avec la Gen Z, c'est un mode de travail qui leur plaira plus que d'être cantonné à une fiche de poste.
Cool. Tout ça demande évidemment des compétences qui sont plus... soft, on parle de ces fameuses soft skills. Vous en avez partagé 3. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces 3 soft skills à avoir pour les 10 prochaines années?
Si vous écoutez des podcasts, vous avez la première déjà, c'est la plasticité, c'est-à-dire la capacité à apprendre et désapprendre, à se remettre en question, à changer, parce que le monde, il va changer tout le temps. Les nouvelles techno, déjà, il y a 6 mois, ça n'existait pas. On parlait même pas de ChatGPT, alors imagine dans 10 ans. La deuxième, c'est l'éthique. Qu'est-ce qu'on met derrière ces technologies? Est-ce qu'elles reposent bien sur le droit social, etc., le droit du travail? Ça, on fait super gaffe à ça nous aussi. Et la dernière, c'est l'humain. Alors, j'aime pas l'humain en mode galvaudé, gnagnagna. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que si on délègue à l'IA nos tâches les plus smartes, genre diagnostiquer, trier la data et tout ça, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester les tâches non délégables à une machine. Souvent, l'humain, genre par exemple le care de ses employés, de ses proches, de ses patients quand on est médecin. Et tu vois ça? On est mauvais aussi aujourd'hui sur ça parce qu'on a trop de boulot sur tout le reste. Du coup, on est là à faire des tâches rébarbatives, machin. Après, on n'a plus le temps de soigner ses patients ou d'être sympa avec ses clients. Quand t'es une start-up demain, tu pourrais vraiment te différencier en ayant un service client incroyable et tout le reste automatisé sur ton IA.
Cool, merci. Un mot sur ton Web2Day, quelque chose qui t'a marqué, que t'aimerais nous partager?
Moi c'était ma première fois en tant que speaker, donc c'était génial, très bonne expérience aussi, l'orga et tout. Et après, tu sais, moi je prends mon petit micro comme toi et j'adore parce que je fais des micro trottoirs et je rencontre des gens et ça me donne des prétextes en fait pour casser la, tu sais, le côté un peu pénible du networking, t'as peur d'aller leur parler. Je prends mon micro, je parle direct avec eux et ça, c'est trop chouette, les rencontres qu'on fait.
Cool, merci. Si les gens veulent en savoir plus et te retrouver ou te contacter, tu l'as dit, il y a ton podcast, sinon LinkedIn, où est-ce qu'on te retrouve?
LinkedIn, moi c'est mon petit métaverse machine à café à moi, c'est là que je suis avec mes clients, mes potes freelance et tout, donc Flavie Prévost sur LinkedIn.
Je suis maintenant avec Isabelle à la sortie de ta conférence sur la semaine de 4 jours, en tout cas intitulée 4 jours de travail, c'est suffisant. Est-ce que tu peux rapidement te présenter tout d'abord?
Oui, alors je suis Isabelle Figueras, je bosse pour Bizet, une entreprise portugaise d'une plateforme d'e-commerce, produits personnalisés.
Donc, sur cette thématique du 4 jours du travail, d'où c'est venu, d'où c'est parti? Est-ce que il y a eu un moment clé qui a été déclencheur au sein de l'entreprise pour vous dire, ok, maintenant, faut qu'il y ait quelque chose qui change au sein de l'entreprise et la semaine de 4 jours, ça peut être ce qui va nous amener à un autre niveau ou en tout cas à remplacer un problème qu'il y avait.
Oui, alors nous, on a toujours des objectifs de croissance très, très ambitieux, du plus 50% d'une année sur l'autre. Et avec les années Covid et le télétravail, on a beaucoup perdu au niveau recrutement. Beaucoup d'entreprises étrangères viennent recruter au Portugal. Et du coup, on avait beaucoup moins de talents disponibles pour nos propres recrutements. Et on a décidé, on cherchait des solutions. On a vraiment trouvé la semaine de 4 jours comme quelque chose. Il faut qu'on soit mieux, plus attirant, plus intéressant que les entreprises étrangères qui viennent recruter au Portugal pour qu'on puisse retenir nos talent et en embaucher de nouveau. Et du coup, ça a été ce choix stratégique d'être pionnier au Portugal et de proposer quelque chose que personne n'avait.
Ça a été impulsé par qui? Par la direction? Ça a été les RH, le marketing? C'était quoi l'origine au sein de l'entreprise?
Je pense que c'est beaucoup de plaintes d'IT et de marketing qui n'arrivaient pas à recruter les personnes qu'il fallait et qui avaient beaucoup de pression au niveau des objectifs. Et du coup, le CEO les a écoutés et a pensé à une solution au niveau des investisseurs, etc. Le board a cherché plusieurs idées et se sont décidés sur la semaine de 4 jours.
Cool. Alors, il y a une croyance qui dit que un jour de travail en moins égale moins de productivité. Dis-nous tout, c'est vrai ou c'est faux?
Eh bien, pas du tout. Nous, au bout de 3 mois, on a déjà 0,6% de productivité. Donc, et on va vraiment l'augmenter, on est sûr de ça, parce que les personnes ont un tel compromis, ont senti qu'ils étaient importants pour l'entreprise. Et du coup, ils donnent plus, parce que si tu es motivé, tu travailles plus, tu travailles mieux. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de ressentir. Donc, non, la productivité augmente, la productivité horaire augmente. Et du coup, on y gagne tous.
Ça s'accompagne aussi de quelque chose qui était déjà... En fait, est-ce que c'est dans la continuité aussi de quelque chose que vous aviez déjà mis dans l'entreprise, qui est le 100% télétravail? Est-ce que les sujets sont liés ou pas du tout? C'est quoi ta vision des choses là-dessus?
Je pense que le télétravail, on est parti sur ce que tout le monde faisait, alors que les semaines de 4 jours, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc, atteler des deux, ça nous a peut-être un peu même fait peur au départ. On les voit pas et en plus, ils vont travailler moins. Donc, c'était un peu le stress, mais en fait, pas du tout, parce que là, c'était vraiment quelque chose de différent, de nouveau. On y croit, on veut que les gens se sentent mieux, que se sentent mieux dans leur vie et au boulot, et on va tous y gagner. C'est beaucoup plus ça l'objectif du 4 jours.
Alors, dans ton intervention, tu disais que donc cette semaine de 4 jours, elle était accompagnée de un jour en moins, mais une heure de travail en plus par jour, ce qui offrait au final, en cumulé à l'année, que moins 7% d'heures travaillées. C'est quoi les premiers retours? Que font les collaborateurs de ce troisième jour de repos offert?
Alors, il y a beaucoup de feedback, c'est qu'ils passent plus de temps avec les amis, la famille, et font du sport. Donc, c'est vraiment très healthy et sympa, quoi.
Vous avez des trucs un peu amusants, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des collaborateurs qui se retrouvent quand même ce jour-là pour entre eux?
Oui, exactement. Ils commencent à faire de la course et plein d'autres activités sportives entre eux. Et du coup, ça développe encore plus les liens, ce qui est super, alors qu'on n'avait pas prévu ça, mais tant mieux.
Trop bien. S'il y avait un chiffre là sur ça va faire 6 mois que vous avez mis en place cette politique de semaine de 4 jours. S'il y avait un chiffre particulier que toi tu devais nous partager, ce serait lequel?
Moi, je suis un peu rebelle, je vais en partager deux. Mais donc, c'est plus 300% de CV qu'on reçoit. Donc, c'est vraiment, on choisit qui on veut pour notre entreprise. Et moins 35% de turnover. Donc, les personnes partent moins. On a les meilleurs, on garde les talents et on récupère les nouveaux talents aussi.
Trop bien. On ne l'a pas dit, mais vous êtes à l'échelle d'une entreprise où vous êtes plus de 200, ça. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur ou une entrepreneure qui nous écoute, qui a une plus petite équipe, peut-être une dizaine de personnes, qui serait intéressée pour se lancer dans une semaine de 4 jours, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour débuter sur ce sujet-là?
Alors déjà, il faut un compromis. Le plus facile, c'est se dire, on va faire un petit test de 3 mois, quelque chose comme ça, ne faites pas ça. Parce qu'en fait, il faut que l'employé ressente qu'il y a un vrai compromis de votre part. Donc évidemment, c'est toujours un test. On ne peut pas se dire, on va se lancer, on va le faire pendant 2 ans. Nous, on fait un test de 2 ans, mais même, vous pouvez faire un test de 8 mois, quelque chose comme ça. Donc, mais quand même, qu'il y a un compromis de votre part. Se laisser une porte ouverte de si ça ne marche pas, attention, on va peut-être revenir parce que voilà, on teste, etc. Mais on le fera ensemble. Donc, réunir les gens, sentir qui est un vrai compromis de on veut que vous allez mieux, vous voyez que on veut que vous ayez une meilleure équilibre vie pro vie perso et aussi bien préparer son intervention en interne mais aussi en externe, capitaliser sur la com pour pouvoir avoir des jeunes talents qui tapent à votre porte et comme ça grandir encore plus.
Top, merci. Si on veut en savoir plus sur ce que vous menez, sur ce que vous développez, où est-ce qu'on peut te suivre, contacter, etc.
Bah sur LinkedIn, je pense que Bizet sur LinkedIn a pas mal d'informations. On va continuer à communiquer dessus parce qu'on veut vraiment être pionnier, mais aussi communiquer et contagier d'autres entreprises.
Top, merci Isabelle. Un petit mot sur ton Web Today à toi. Je sais que tu es arrivée ce matin de Lisbonne et que tu ne restes pas non plus super longtemps, mais un mot là sur ton expérience au Web Today.
Écoute, c'est quelque chose de très dynamique, je ne connaissais pas, c'est la première année, mais c'est très intéressant parce qu'il y a plein de sujets différents, innovateurs et qui laissent réfléchir sur comment s'adapter et comment surprendre.
Merci, eh bien, écoute, je te laisse profiter de l'événement parce qu'à mon avis, il y a d'autres personnes qui vont avoir envie de partager avec toi vu comme la salle était comble. Merci Isabelle. Toujours sur ce Web Today là, en compagnie de Lucas. Lucas, tu es participant au Web Today. Tu vas me parler. Tu me parlais déjà off micro de la conférence à laquelle tu as assisté avec Timothée Parik. Dis-nous en plus. Raconte-nous un petit peu quelle était cette conférence. Pourquoi t'as trouvé ça intéressant toi?
Donc ouais, grave, je suis parti voir la conférence qui s'appelle « Ralentir ou périr » de Timothée Parik. C'était très très cool parce qu'en fait, c'est un gars que je suis sur LinkedIn, les réseaux plus ou moins, que je vois intervenir dans des émissions de plus en plus, qui parle de décroissance. Un truc qui est un petit peu un mot soit très très sombre, soit buzzword en ce moment sur les réseaux. Et c'est très cool d'avoir quelqu'un qui vient et qui nous explique ce qui est pour lui sa définition de la décroissance et comment la mettre en place. Et du coup, juste de comprendre que le mot décroissance pour lui n'est pas un état stationnaire, le fait de décroître et de continuer comme ça, mais plutôt une transition du modèle actuel de surconsommation, de surproduction et de passer par une phase de transition, ce qu'il appelle la décroissance, pour arriver à une phase stationnaire où on est en capacité de vivre en respectant tout ce qui est biologie, carbone, enfin la planète en général quoi. Et donc très très cool, très surpris de voir ça un petit peu dans un événement tech, startup, entrepreneuriat. Ça me fait plaisir que des thématiques comme ça apparaissent et puissent venir challenger un peu notre façon de faire du business et d'entreprendre. Très cool, étonnant. Mais j'ai kiffé.
Donc la conférence s'appelait Ralentir ou périr, tu l'as dit. C'est quoi tes façons à toi de ralentir?
Très bonne question, mes façons à moi de ralentir. Alors, je sais pas si c'est ralentir, on peut considérer ça ralentir. Au niveau voyage, je me suis beaucoup déconstruit ces dernières années concernant le voyage. Je partais beaucoup en voyage en me disant ouais, mais c'est pour découvrir des nouvelles cultures, etc. Ce qui était vrai. Mais en fait, ce que je kiffe dans le voyage, c'est plus la surprise, la capacité de s'adapter, la capacité de découvrir. Et en fait, pour faire ça, on n'est pas obligé de prendre un avion pour partir à l'autre bout du monde. Ça, j'ai kiffé. Alors, je dis pas que je suis exemplaire et que j'ai arrêté l'avion, mais en tout cas, sur cette phase de loisir, j'ai vraiment diminué ça. Après, il y a tout ce qui est consommation, on va dire plutôt quotidienne en termes de fringues, en termes de. Alors, je dis pas que je suis arrivé minimaliste. On en est pas là. Mais c'est vrai que je challenge beaucoup ma consommation de fringues, de multimédia, de numérique, digital, tout ça. Et ça, c'est cool. Donc voilà.
Top, merci. Et dernier mot sur le Web Today, sur cet événement en tant que tel, sur aussi Nantes, toi qui vis à Nantes. Raconte-nous un peu ton expérience. Tu m'as dit par exemple, autant hier t'es venu, t'as vu des confs et tout. Aujourd'hui, t'as ralenti aussi en quelque sorte. T'es venu, t'as un peu plus été chill à profiter de l'ambiance, de venir même bosser. T'as pas couru après toutes les conférences. Raconte-nous ton Web Today.
Ouais, grave. Bah en fait, je trouve ça ouf ce qu'ils ont réussi à faire avec cette édition. Alors, j'ai pas participé aux autres, mais j'imagine que c'était à peu près la même chose. C'est que on est à la fois dans une zone de conférence, dans une zone d'échange, dans une zone de création et même de fun avec la musique. Il y a des animations et je trouve que plus que une exposition, un salon, on pourrait appeler ça comme on veut. Ils ont créé un lieu de vie éphémère sur la connaissance et sur le partage qui est très, très cool. Et c'est ce que j'en retiendrai, je pense, genre vraiment lieu de vie et lieu de partage et lieu de connaissance. C'est cool.
Top. Merci, Lucas. Toujours au Web2Day, j'ai croisé durant ce Web2Day des énergumènes habillés en violet avec des pancartes. J'en ai une devant moi. Je vais te demander de te présenter et de nous dire qu'est-ce que tu fais là.
Je m'appelle Marine Pétroline, je suis la créatrice des Chroniques du sexisme ordinaire, un média qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sous forme d'un podcast, Chronique du sexisme ordinaire, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, et d'un spectacle conférence que j'ai joué cet après-midi au Web2Day. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec pédagogie, humour et zéro culpabilité.
Ça c'est du pitch. On sent que t'es podcasteuse, à l'aise sur scène, etc. Bravo déjà pour ça. Pourquoi c'est important aujourd'hui dans un événement comme celui-là, qui est quand même avec un prisme très tech, entrepreneurial, etc., d'aborder ces sujets, de continuer à aborder ces sujets?
Alors, je pense que c'est important tout court d'aborder ces sujets parce que aujourd'hui, on a l'impression que l'égalité est là. Alors oui, on a l'égalité sur le papier, on a l'égalité dans la loi. D'ailleurs, la France est un des rares pays dans le monde à avoir inscrit ça dans la Constitution. Mais dans les faits, force est de constater que l'égalité n'est pas là. Et en fait, il est important de se mettre d'accord sur c'est quoi l'égalité. L'égalité, c'est avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais aussi la même visibilité, représentativité, les mêmes opportunités, les mêmes conditions, traitements. Donc, c'est pas juste être égaux, égal devant la loi en principe. C'est aussi que ça se traduise dans tous les aspects de la vie. Et aujourd'hui, en fait, les hommes et les femmes ne sont pas à égalité dans la société, dans plein d'aspects. Et les personnes racisées, les personnes blanches non plus, les personnes handicapées, les personnes valides. Même si moi, je m'occupe surtout de féminisme, de sexisme et d'égalité entre les hommes et les femmes, mais sans oublier les autres discriminations qui peuvent exister. Et dans un événement comme le Web2Day, donc on parle beaucoup tech, business, etc., c'est d'autant plus important d'en parler parce que la tech, c'est un des milieux les plus masculinisés avec le BTP, l'armée et le transport routier. C'est un secteur qui est en croissance aujourd'hui. Le numérique, c'est 5,5% du PIB. C'est un des secteurs les plus en croissance en France. Donc, c'est un secteur d'avenir, même si j'aime pas trop ce terme qui est assez galvaudé. Mais parler de ça, et favoriser plus de femmes dans la tech, c'est aussi favoriser un monde façonné par le numérique, mais qui aujourd'hui est façonné principalement par des hommes. Donc, on renforce en fait le pouvoir que peuvent avoir les hommes dans la société, qui est aussi un pouvoir économique. Donc, c'est d'autant plus important d'en parler. Et puis le Web2Day est un événement qui est quand même très paritaire, très engagé sur tous ces sujets et c'était le bon endroit et j'ai été accueillie à bras ouverts de façon extrêmement sympathique.
Sur ton t-shirt, il y a écrit « Le diable est dans les détails, le patriarcat aussi ». C'est quoi ces détails-là? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour qu'on se rende bien compte que oui, il est partout aujourd'hui et même des fois sans qu'on s'en aperçoive?
Effectivement, moi, je me concentre, que ce soit dans le podcast ou dans le spectacle, sur toutes les inégalités qu'on ne voit pas ou qu'on ne soupçonne pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire « Ah, les violences sexuelles, c'est terrible. » Et c'est un problème fondamental, urgent, c'est très grave, ça brise des vies. Et il y a des associations, des créateurs, créatrices de contenu qui font un travail indispensable pour sensibiliser sur ces sujets. Mais c'est une partie du problème et on arrivera à résoudre cette partie-là du problème qui est urgente et fondamentale si on s'occupe du reste du problème qui sont les autres inégalités qui semblent moins graves, plus anodines. Et parce que tout ça, c'est un système en fait. Et quand je dis le diable est dans les détails, le patriarcat aussi, oui, le patriarcat, le sexisme, ça s'immisce partout, même dans la répartition de l'espace, dans les cours de récré entre les petites filles et les petits garçons, dans le calcul du PIB, dans la façon dont on organise les villes, dans l'urbanisme, dans nos représentations de la préhistoire, dans le sport, qui est un milieu ultra sexiste et très violent en vrai, dans les Jeux Olympiques. Ça, c'est tous les sujets que j'ai pu traiter dans le podcast avec un épisode à chaque fois. Et donc, mon propos, c'est de dire, si le sexisme, il est dans tous ces endroits-là, il est aussi dans d'autres endroits. Et mon objectif, c'est d'amener les gens un peu à décaler le regard et de se dire, avec cette histoire-là, j'avais jamais pensé que les femmes à la préhistoire, on a l'image qu'elles étaient dans la grotte à s'occuper des enfants, alors qu'en fait, non, mais ça, c'est une représentation du 19e siècle qui a été projetée sur ce qu'ont fait les paléontologues à cette époque. Et quand on commence à réfléchir comme ça, à rentrer dans toutes ces histoires, ben en fait, on met la machine en branle et on avance dans son chemin de déconstruction.
Intéressant, merci de partager ça avec moi et avec tout le monde, parce que ce que je disais, tu t'es rendu bien visible et merci pour ça. Une fois qu'on a fait ce constat-là, une fois qu'on entame cette déconstruction, est-ce que il y a quand même des choses enthousiasmantes qu'on peut que tu peux nous partager, tu vois, des choses sur lesquelles on peut s'encourager, de dire ok, c'est cool parce que ça, c'est en train de changer et pour de bon et c'est chouette. Parle-nous-en.
Oui, alors il y a plein de choses qui changent hein, depuis quand même à la louche 100 ans, ça va dans le bon sens, même s'il reste plein de choses et c'est pas un progrès linéaire en fait, c'est des globalement ça va dans le bon sens, mais il y a des petits allers-retours, des backlash, des effets boomerang, et d'ailleurs on est dans une époque de backlash, au début d'une époque de backlash. Mais il y a des choses qui vont mieux et ça se fait, je trouve, dans beaucoup de joie aussi et que il y a des choses très chouettes qui se passent, que les hommes ont aussi en partie à gagner à ça, parce que les hommes aussi sont victimes d'injonctions, de stéréotypes, qu'ils n'ont pas tous envie de gagner beaucoup d'argent, d'être fond dans leur carrière, d'être fort, hyper viril, etc. Donc tout ce mouvement, en fait, c'est pour nous libérer toutes et tous des stéréotypes de genre. Voilà.
Cool. T'aurais une petite astuce, un petit tricks pour débusquer un sexisme ordinaire ?
Bah, par exemple, et ça j'en parle dans le podcast, dans le spectacle, pardon, un truc moi dont je me suis rendu compte, et quand je m'en suis rendu compte, j'ai plus vu que ça, ou plutôt entendu que ça, c'est que très souvent dans nos conversations de tous les jours, et puis dans les médias aussi, c'est vraiment partout, on va toujours ramener les femmes à leur physique. Donc, c'est la petite remarque qui se veut bienveillante, en vrai, gentille, de féliciter quelqu'un sur sa silhouette. « Oh, dis donc, t'as maigri, c'est chouette. » Ou dire d'une femme, alors qu'on parle peut-être de quelque chose au travail, « Oh là là, puis qu'est-ce qu'elle est jolie. » Oui, en fait, on ramène les femmes à leur physique et ça renforce les injonctions à la beauté, à la minceur. On objectifie les femmes qui sont objets et pas sujets. Et ben ça, c'est quelque chose auquel on peut toutes et tous faire attention dans nos propos au quotidien. Se dire, ah oui, là, je parle du projet que j'ai mené avec telle et telle femme. Je suis peut-être pas obligée de mentionner qu'elle est bien habillée, qu'elle est jolie et qu'elle est mince. Parce que ça, c'est ce qui renforce en fait inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte, toutes les injonctions qui bombardent les femmes sur il faut être mince, bien habillée, maquillée, jolie, pas avoir trop de gras, mais pas être trop maigre non plus. Et ça nous influence, ça influence toutes les femmes. C'est des machines à complexes. Et dès les tout jeune âge, moi j'ai une nièce qui a 10 ans, elle est encore à l'école primaire et elle est mal dans sa peau parce que elle est plus grande que ses copines et peut-être elle a pas la même morphologie et elle se pèse avec ses copines et elle fait 5 kilos de plus que ses copines et elle pleure et elle demande à sa maman mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi je suis comme ça. Et moi quand j'entends ça, mais mon cœur saigne quoi, et ça me met en colère en vrai, et on a raison d'être en colère. Oui, les féministes sont en colère et c'est très sain, et quand on voit ça, on ne peut être que en colère, et si vous ne l'êtes pas, demandez-vous pourquoi. Parce que moi quand une petite fille de 10 ans pleure parce qu'elle fait 5 kilos de plus que ses copines, en gros j'ai envie de la prendre dans mes bras, de la consoler et de tout casser.
Oui, merci Marine, même si je t'avais demandé un truc enthousiasmant et t'as fini par reterminer sur quelque chose sur lequel on a encore besoin de faire beaucoup d'efforts. Et pour abonder dans ton sens, je pense qu'un des petits tricks aussi qui pourrait être réalisé, c'est de se dire, est-ce que cette réflexion, cette phrase, est-ce que je l'aurais dit à un homme en fait ? C'est-à-dire que typiquement, elle est jolie ta robe aujourd'hui pour la présentation business, jamais tu vas dire à un homme, il est pas mal ton dernier jean pour la présentation. Bref, donc voilà, petit trick.
Ouais. Ça, c'est un truc d'ailleurs, demandez-vous, en particulier au travail, et ça vaut aussi pour les relations très paternalistes qu'on peut avoir entre un ou une manager et ses équipes. Dites-vous, est-ce que cette personne pourrait me dire la même chose ? Et si elle ne peut pas vous dire la même chose, c'est que, a priori, c'est peut-être pas la meilleure chose à dire.
Un mot sur ton Web Today. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as vu qui était intéressant, que tu pourrais nous partager sur globalement ton expérience au Web Today ?
Bien, hier, j'ai vu deux super interventions. J'animais toute une série, toute une après-midi dans une des salles. Et il y avait deux personnes, moi, qui m'ont vraiment marquée. La première, c'est Maud Alaves, que vous connaissez peut-être sur LinkedIn, qui est assez connue sur les questions de personal branding et qui est en fait une personne très introvertie et qui est venue justement parler du fait de prendre la parole quand on est introvertie. Et c'était passionnant. Moi, elle m'a embarquée. C'était hyper bien construit. j'ai pas décroché et elle amenait quelque chose d'intelligent et pas la tartine classique sur les introvertis, les extravertis. C'était très construit. Elle allait au fond du sujet et donnait des pistes hyper intéressantes. Donc, je sais pas si le replay sera en ligne, mais franchement, allez le regarder. Et le deuxième, c'est Grégory, j'ai oublié son nom de famille, qui est le fondateur de Board Game Arena, qui est une plateforme de jeux de société en ligne, et qui a raconté comment il a monté ça comme un projet avec un pote au début, qui est devenu une entreprise très florissante, qu'il a revendue depuis. Et il a raconté cette histoire, et c'est un peu, j'ai trébuché, j'ai fait une boîte à plusieurs millions. Alors évidemment, c'est pas arrivé d'un coup, ça a pris 13 ou 15 ans. Et pareil, il nous a raconté son histoire, c'était à 17h, c'était la dernière conf, il y avait plus grand monde dans la salle, et c'est très dommage parce que moi c'est une des meilleures confs que j'ai vues cette année.
Merci infiniment. On retrouve ton enthousiasme sur le podcast, donc Chronique d'un sexisme ordinaire, et peut-être ailleurs sur LinkedIn, j'en sais rien.
Alors Instagram, sexisme ordinaire-du-6 podcast, et LinkedIn, Marine Pétroline Soichaud, et un peu TikTok, mais franchement je fais pas grand chose, je publie les mêmes vidéos que sur Instagram et je m'en vais.
Merci Marine, bon web today. Eh bien voilà, on arrive quasiment à la fin de ce Web Today pour moi. Le Web Today n'est pas fini à l'heure où on se parle. On est, on va dire, aux deux tiers, vu qu'on est à la fin du deuxième jour. Je suis en bonne compagnie parce que je suis avec Adrien. Adrien, tu es le CEO de La Cantine organisateur de ce Web Today. Raconte-nous de ton côté ce Web Today. C'était quoi déjà les gros enjeux avant, ce que vous aviez envie de faire passer à travers ce Web Today? C'est ça ma première question.
Ok. Bah, les enjeux, ils sont forcément multiples pour une structure comme nous. Il faut savoir que c'est organisé par une association, association qui a pour objectif d'animer ce qu'on appelle un écosystème d'entreprises du numérique et de l'innovation sur le territoire. Nous, nos enjeux sur le Web Today, ils sont multiples forcément. On a besoin de faire venir du monde, de faire parler de Nantes, de faire rayonner le territoire, de donner de la visibilité à nos entreprises. On a besoin aussi, nous, en tant qu'association, qu'il y ait suffisamment de monde, qu'il y ait suffisamment de partenaires financiers en fait, hein, pour boucler notre budget sur l'événement. Et puis, par-dessus tout, on a besoin que les gens soient contents, qu'ils passent un bon moment, que le contenu soit de qualité. Donc, ouais, des enjeux, on en a à l'appel. Hein. Et écoute, j'ai envie de dire que pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal.
Je le confirme du côté participant pour ma part, et faire rayonner Nantes, faire venir des gens d'ailleurs de Nantes, tu vois, moi je viens de Bordeaux, c'est le cas, et pour te dire, ce que je trouve très intéressant en tout cas, c'est aussi ce choix d'aller au-delà d'un Web Today, tu le disais dans ton ouverture, je crois, qu'aujourd'hui on est c'est pas qu'une conférence autour du web et de la tech. Raconte-nous comment ça se matérialise à travers ce Web Today.
Nous, ça fait 15 ans qu'on vit l'écosystème numérique. On a vu l'arrivée de la French Tech, on a vu les startups. Au début, on s'en moquait un peu, puis à un moment, c'est devenu la hype. En fait, enfin, fallait monter une startup. On a vu des startups qui ont commencé à très bien marcher, à gagner des millions, enfin à gagner des millions ou à lever des millions au moins. On a vu tout ça, et puis il y a 4-5 ans, on s'est dit bon, ok, c'est super. On a bien fait notre travail, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et la conviction profonde qu'on a, je pense, partagée entre les administrateurs de l'association et tous les salariés de l'équipe, c'est que les acteurs de l'innovation, nous on parle même plus de tech, on parle d'innovation, parce qu'on est aussi inclusif avec les ETI, avec... Enfin voilà, il n'y a pas que les startups qui innovent. En fait, on doit mettre ces acteurs au service des transitions, parce que... Moi, je vois encore trop de gens qui sont un petit peu déconnectés et qui se rendent pas compte que, si tu regardes par la fenêtre, c'est pas très beau, en fait, ce qui est en train de se passer dehors. Et on a vraiment l'envie, à plein de niveaux, d'amener du contenu, de faire réfléchir les gens, de leur mettre dans les pattes des speakers qu'on va pas voir ailleurs, qui vont les challenger, en fait, un peu sur c'est bien, mais faire une conf sur le business model, c'est sympa, mais t'as pas besoin du Web Today pour avoir une conf sur le business model. Par contre, tiens, on va faire une conférence sur la ménopause en entreprise. Comment c'est vécu, comment c'est traité. Là, on est sur des sujets sociétaux. On va parler de la parité. Moi, je suis hyper fier. On a 54% de nanas speakers, en fait, sur un événement où il y a 230 speakers dans la tech. Mais quel événement fait ça en dehors, en fait, du Web Today? C'est pas compliqué, il n'y en a pas. En France, il n'y en a pas. En tout cas, pas à ce niveau-là, en fait. Et c'est pas juste une fierté, c'est un combat. Et je crois qu'on porte cette vision-là de oui, l'innovation, oui, le numérique, oui, tout ça, super. Mais à un moment, il faut être capable de cette tech, de la mettre au service du bien commun, parce que je pense qu'on a une responsabilité de ce point de vue-là. Alors, nous, tout seuls, on ne va pas faire grand-chose, mais le Web Today, c'est une forme de caisse de résonance et on a envie de s'en servir pour ça. Et a priori, moi, si j'en crois les premiers retours que j'ai, bah, on a quand même beaucoup de gens qui viennent et qui apprécient les contenus et qui sont plutôt emballés, en fait, hein, par, je ne vais pas dire le message qu'on porte, parce que nous, on ne porte pas vraiment de message, c'est les speakers qui les portent et ils sont responsables de leurs propos. Mais en tout cas, ça résonne, en fait, hein, pas mal chez les participants. Ouais.
Cool. Encore deux petites questions, après je te libère pour cette session un peu d'afterwork et qui fait vraiment partie aussi de ce Web Today là, d'avoir ce temps de rencontre et ces échanges, et on voit vraiment ça, en tout cas voilà, moi je peux en témoigner. Ma première, qui est plus d'un ordre, on va dire logistique entre guillemets, c'est quoi les clés d'une bonne organisation d'événements, d'un bon Web Today?
Alors ça c'est un peu la question piège. Je dirais que le fondamental, c'est de bien s'entourer, c'est-à-dire enfin c'est de faire bosser des gens dont c'est le métier sur une organisation comme ça. En toute transparence, le Web Today pour l'association, c'est un budget, globalement on est entre 650 et 700 000 euros de dépenses. C'est un risque qu'on prend tous les ans, parce qu'il faut qu'on rentre suffisamment de partenaires, de billetterie pour couvrir cette dépense là. Cette dépense là c'est quoi? C'est principalement des frais logistiques. Pour les trois quarts, voire les 90% en fait, hein, du budget, c'est de la logistique. C'est les prestataires qu'on fait intervenir pour monter le village, c'est les régisseurs, c'est toutes les équipes techniques qui interviennent sur l'événement, c'est évidemment du temps en fait, hein, derrière chez nous, parce qu'il faut aller chercher les speakers, parce qu'il faut communiquer, parce qu'il faut aller chercher les partenaires, parce que enfin voilà, c'est un taf franchement qui est costaud, hein, en fait. Hein, les clés de succès, j'ai envie de te dire. On s'est pété la gueule sur plein de trucs, c'est la 13e édition. On a appris en marchant, nous aussi, parce qu'on n'est pas des professionnels de l'événementiel au départ. On a commencé avec 200 personnes sur une après-midi avec juste du bon sens. Et puis petit à petit, on a eu envie de passer des caps, on est monté en puissance. Et au fur et à mesure qu'on montait en puissance, on s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette, il y avait des métiers qu'on ne maîtrisait pas. Et qu'il fallait qu'on s'entoure en fait de gens dont c'était le métier. Voilà. Et donc il y a des choses qu'on ne lâche pas, l'orga elle est chez nous. Hein. Mais par contre, on a des prestats en fait, qui sont mais qualis sur ce qu'on leur demande, que ce soit... les lumières, le son, que ce soit des mecs qui savent comment on prend un speaker et on l'emmène sur une scène et on le met bien en fait, hein, avant qu'il monte sur scène. Ouais, c'est comment on book en fait, hein, des trains, des avions. Alors des avions, on essaye de pas trop, et en vrai on le fait quasiment plus, hein. Mais comment on book 150 billets de train aller-retour avec toutes les demandes qui vont changer la veille, la semaine d'avant, voilà, parce que le mec, enfin voilà, et donc faut des gens réactifs, faut qu'ils soient bons, voilà, c'est tout ça en fait. En réalité, c'est ces trucs là sur lesquels on est monté en compétence. Puis après, bah effectivement, la scénographie au fur et à mesure, ouais, prend du volume. Je pense qu'on est sur un événement aujourd'hui qui est qualité, avec une bonne ambiance, parce que c'est ça le plus dur en vrai. En vrai, le plus dur, c'est de passer à l'échelle un événement où tu commences à 200, où c'est facile à 200 d'avoir une belle ambiance. Quand tu arrives à 4000 personnes sur une journée, ouais, et que les gens se connaissent pas forcément, bah oui, toi, tu connais pas tout le monde, mais t'en connais forcément un petit peu. Ouais, toi, tu vas passer une bonne journée, mais comment tu t'assures que tous les gens, ils vont passer une bonne journée et que les gens, ils vont être open les uns aux autres et qu'ils vont s'éclater et qu'ils vont avoir envie de revenir? Et je pense que la vraie réussite, c'est l'état d'esprit de l'événement qu'on a réussi à garder, même en grossissant, quoi. Et ça, je pense que c'est la qualité de l'équipe, en fait. Hein, et voilà, et du fait que je crois que la vraie clé de succès, je vais t'en donner une, c'est que nous, on fait un événement auquel nous, on aurait envie d'aller. Hein, voilà. J'ai rien contre Vivatech, hein, c'est un très bon événement, mais tout ce que j'entends moi depuis ce matin, c'est que j'ai des gens qui vont à Vivatech parce qu'il faut aller à Vivatech, mais qui vont pas à Vivatech pour prendre du plaisir. Voilà. Contrairement à ici, où j'ai des gens de toute la France qui débarquent et qui achètent des billets pour venir, alors qu'ils ont même pas vu la moindre ligne de programmation. Mais parce qu'ils savent qu'ils vont passer trois jours, ils vont rencontrer du monde, ils vont venir avec leur équipe, ils vont s'éclater. Et en vrai, je pense que c'est ça le... Ouais, il y a tout ce qui est derrière, la technique, la logistique, et puis il y a l'ADN, il y a ce que tu mets de toi dedans, et jusqu'ici, ça marche bien.
Je te le confirme, parce que j'ai carrément même vu des gens qui sont venus cet après-midi et qui ont été voir aucune conférence, mais qui ont juste chillé, bossé un peu, etc., mais être dans l'ambiance Web Today.
C'est un bon classique, ça.
Ta belle histoire ou ta belle surprise de ce Web Today à date, parce que le Web Today n'est pas fini comme on le disait, mais là à date, un truc que toi t'as envie de noter particulièrement?
Bah, alors, il y a deux choses. Bon, des histoires, il y en a forcément plein, parce que moi, je passe ma journée à discuter avec des gens qui me racontent des trucs, leur vie avec le Web Today, ce que ça a changé, les éditions d'avant, les machins, les trucs. Bon, tout ça, c'est vraiment rigolo. Moi, j'ai deux choses. Déjà, c'est qu'on a le soleil, et c'est vrai que quand on a le soleil, quand on fait un événement un peu en plein air, comme c'est notre cas, bah, ça change pas mal de choses sur l'état d'esprit, le plaisir que les gens prennent, ça c'est clair. Hein. Puis le deuxième, c'est juste, c'est un, pas anecdotique parce que c'est assez cool, hein. Mais j'ai vu ce matin une conf. Alors pour le coup, c'est pas moi qui fais la programmation, donc je découvre des trucs aussi. Moi, c'est mon équipe, une partie de mon équipe qui fait ça. J'ai vu une conf d'une nana racisée, en fait un franco-marocaine en l'occurrence, hein, ce matin, tradeuse, une nana, une tête brillante, qui racontait en gros les failles de la méritocratie en fait à la française. Hein. Et non seulement c'était puissant, hein, mais en plus elle le faisait en dansant. La conférence était waouh, hein, c'est-à-dire vraiment truc. Et moi, j'adore ça dans le Web Today, c'est qu'on s'autorise des pas de côté. On invite nos speakers. Là, genre, on a encore des gens qui étaient déguisés sur scène cet après-midi. Y a des blagues. En fait, enfin, tu sens que l'atmosphère, elle est quand même hyper chaleureuse, que les gens sont contents d'être là. Mon anecdote, c'est ça, quoi. C'est que quelque part, tout le monde prend du plaisir et c'est ça qu'on veut, quoi. Ouais.
Merci Adrien. Bon Web Today.
Merci à toi.
Le Web Today, c'est fini. J'ai pu prolonger l'expérience avec vous grâce à ce format podcast. J'espère que les deux épisodes spéciaux vous auront plu. J'ai hâte, moi, de mon côté, d'aller voir quelques conférences en replay sur leur chaîne YouTube, car impossible d'assister à tout durant l'événement. J'espère que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, donnez votre avis sur Apple Podcast, sur Spotify, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça pourra peut-être m'encourager à aller couvrir d'autres événements. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans plein d'autres épisodes qui sont déjà publiés et puis sur les prochains. Donc pour pas les louper, ben abonnez-vous hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis on peut prolonger les échanges sur LinkedIn par exemple. Vous pouvez me retrouver Guillaume Comagnac. Portez-vous bien et à bientôt.